Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences. Et que sans elle, nous vivrions en aveugle, dans l'ignorance des merveilles de l'univers.
Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Déterminer l'habitabilité d'une planète ne se résume pas à savoir si elle possède ou non de l'eau liquide. Une exoplanète pauvre en eau peut être inhospitalière, qu'elle se trouve ou non dans la zone dite habitable. La Terre, la seule planète habitable connue, dépend de son cycle du carbone pour maintenir son habitabilité. Or, ce cycle dépend de l'eau, et les exoplanètes qui en sont dépourvues ont peu de chances de le maintenir, ce qui compromet sérieusement leur perspective d'habitabilité à long terme. Une nouvelle étude publiée dans The Planetary Science Journal examine la teneur en eau nécessaire à l'habitabilité des exoplanètes, en prenant Vénus pour un exemple éloquent. Askel White-Gianella et Joshua Christensen-Totten de l'Université de Washington rappellent que, sur Terre, la quantité d'eau en surface est suffisante au cycle géologique du carbone équilibré. C'est-à-dire que l'altération des silicates compense le dégazage volcanique de CO2. La vapeur d'eau présente dans l'atmosphère terrestre se combine au dioxyde de carbone pour former de l'acide carbonique. Cet acide, faible et instable, acidifie légèrement toutes les eaux de pluie. Et à l'échelle des temps géologiques, il joue un rôle crucial dans le cycle d'altération carbone-silicate de la Terre, également appelé le cycle Urey. U-R-E-Y. Ce cycle, qui est une branche du cycle du carbone terrestre, permet d'éliminer le carbone de l'atmosphère sur de longues périodes. L'acide faible dissout les roches silicatées et les eaux de ruissellement se déversent ensuite dans les océans. Elles s'accumulent au fond des océans où la tectonique des plaques finit par les enfouir dans la croûte. C'est ainsi que le carbone atmosphérique est séquestré dans les roches terrestres. Sans ce cycle, le carbone s'accumulerait continuellement dans l'atmosphère, provoquant un emballement du réchauffement climatique, comme sur Vénus. Sur les planètes arides, il se peut que la quantité d'eau en surface soit insuffisante pour que ce mécanisme de régulation par l'altération des silicates permette de maintenir des conditions habitables. White-Gianella et Christensen-Totten se sont intéressés aux planètes arides présentant une quantité d'eau en surface très limitée, bien inférieure à celle d'un océan terrestre. Nombre de ces planètes se situent dans la zone habitable de leur étoile. Mais rien ne dit qu'elles puissent être réellement habitables. Les chercheurs ont élaboré des modèles détaillés pour tenter de comprendre les planètes et leur capacité à maintenir le cycle essentiel des carbonates et des silicates. Ils ont modélisé l'évolution du cycle géologique du carbone en suivant les flux d'eau et de carbone entre l'intérieur de la planète et le système atmosphère-océan. La modélisation repose sur 18 variables, parmi lesquelles on peut citer le taux d'échappement atmosphérique de l'hydrogène, le taux de dégazage volcanique, la fraction de la surface recouverte de terre émergée, la température globale, la concentration de minéraux dans les roches vierges, la porosité des roches, la fraction d'eau de pluie transformée en ruissellement, et bien d'autres encore. Cette modélisation s'appuie sur notre compréhension croissante du cycle du carbone terrestre et de la manière dont il régule la température. Les résultats montrent que les planètes telluriques arides peuvent présenter des cycles géologiques du carbone déséquilibrés en raison des limites d'écoulement par rapport à l'altération, ce qui peut entraîner une perte d'habitabilité et un emballement du réchauffement. Même si une planète se trouve dans la zone habitable, donc avec une température suffisante pour posséder de l'eau liquide, elle peut devenir inhabitable si elle ne dispose pas d'une quantité suffisante d'eau en surface pour équilibrer les flux de dégazage et d'altération. Une planète aride pourrait tout de même abriter le cycle Duret, mais elle n'a pas besoin d'autant d'eau que la Terre, mais d'une quantité quand même significative. White, Gianella et Christensen Totten montrent que les planètes telluriques semblables à la Terre nécessitent une quantité initiale d'eau en surface d'au moins 20 à 50% de la masse océanique terrestre pour maintenir un cycle géologique du carbone équilibré et donc une température de surface tempérée sur 4,5 milliards d'années d'évolution. Les planètes arides, qui possèdent moins de 20 à 50% des océans terrestres, ne peuvent maintenir des flux d'altération des silicates élevés, ce qui peut entraîner une augmentation incontrôlée du CO2 atmosphérique. Alors comme il est très difficile de déterminer ce qui se passe sur les exoplanètes arides et lointaines, les chercheurs se sont penchés sur le cas de notre voisine, Vénus. L'étude révèle que la présence limitée d'eau en surface pourrait avoir déstabilisé le cycle du carbone de Vénus, provoquant une transition d'un climat tempéré à un climat inhabitable. La surface actuelle de Vénus est donc inhabitable, hein, avec des températures moyennes de 460 degrés Celsius, une pression de surface 92 fois supérieure à celle de la Terre, et une atmosphère dense dominée par le CO2. Cependant, Vénus aurait pu être habitable par le passé, sous le faible rayonnement du jeune Soleil. Les incertitudes concernant la rétroaction nuage albédo passé de Vénus et son évolution atmosphérique la situent à la limite de la zone habitable interne, où le moment et le déclencheur de son emballement de l'effet de serre restent encore flous. Les modèles climatiques globaux démontrent qu'avec une couverture nuageuse diurne suffisante et une rotation lente, la surface de Vénus aurait pu maintenir des températures habitables jusqu'à il y a 715 millions d'années. Parmi les preuves physiques d'un climat tempéré passé, on trouve d'éventuels vestiges de croûte continentale felsique qui se forment généralement en présence d'eau et aussi des rapports deutérium sur hydrogène indiquant d'importants réservoirs d'eau de surface, bien que pas nécessairement condensés par le passé. À l'inverse, certaines données soutiennent l'hypothèse d'un emballement de l'effet de serre sur Vénus depuis sa formation. On suppose que les plateaux crustaux de Vénus sont felsiques, mais des plateaux composés de minéraux felsiques s'effondreraient probablement sous l'effet de la viscosité et de l'écoulement de la croûte inférieure. De plus, la dynamique atmosphère-nuage après accrétion peut avoir empêché la condensation de l'eau liquide en surface, comme l'ont montré Turbet et collaborateurs en 2021. Bien que le climat passé de Vénus demeure incertain, si elle était habitable par le passé, elle a nécessairement subi une transition climatique majeure pour atteindre ses conditions actuelles. Une explication possible de l'état inhospitalier actuel de Vénus est que l'augmentation de la luminosité solaire a entraîné un rayonnement accru, réchauffant sa surface autrefois habitable et déclenchant finalement un emballement de l'effet de serre. Dans ce scénario, toute eau de surface se serait évaporée, puis la photodissociation de l'eau aurait provoqué une fuite rapide d'hydrogène, aboutissant à l'atmosphère actuelle desséchée et dominée par le CO2. Cependant, l'augmentation de la luminosité à elle seule ne peut pas expliquer une transition climatique d'habitable à inhabitable. Le seuil d'emballement de l'effet de serre dépend de l'albédo et de la composition atmosphérique, lesquels sont régis par les interactions à long terme entre l'atmosphère et l'intérieur de la planète. L'augmentation de l'ensoleillement ne fait qu'accroître la couverture nuageuse diurne et donc l'albédo. Cette rétroaction stabilisatrice entre les nuages et l'albédo aurait pu permettre le maintien de conditions tempérées à la surface de Vénus, même sous l'ensoleillement actuel. Alors, selon les chercheurs, une autre explication à l'état inhabitable actuel de Vénus est qu'un facteur externe, autre que l'augmentation de la luminosité, a mis fin à une période d'habitabilité. Wei et Del Genio ont suggéré en 2020 que des conditions habitables auraient même pu persister jusqu'à aujourd'hui, sans une activité volcanique catastrophique, due à un resurfaçage global épisodique ou quasi-continu qui aurait pu servir de déclencheur. Cependant, les variations du dégazage à elles seules ne suffisent peut-être pas non plus à induire un changement climatique. Si Vénus a autrefois abrité de l'eau liquide en surface, l'altération des silicates aurait pu réguler les concentrations de CO2 atmosphérique, même en présence d'un dégazage volcanique rapide. De plus, les éruptions de grandes provinces ignées exposent de la roche basaltique fraîche à la surface, ce qui augmente considérablement la réduction du CO2 par altération chimique. Et il est peu probable que des modifications du dégazage à elles seules donc puissent déstabiliser durablement un climat où la rétroaction carbonate-silicate est active. Des limites à l'altération sont donc également nécessaires pour White Janella et Christensen Totten. La rétroaction de décarbonatation liée à la stagnation du substratum tectonique a aussi été proposée en 2021 par Hunning et collaborateurs comme une explication de la fin de l'habitabilité de Vénus. Mais on ignore si la Vénus primitive se trouvait dans un régime tectonique de type stagnation du substratum tectonique, et certains indices suggèrent même une subduction localisée. Alors White Janella et Christensen Totten explorent une explication alternative à l'état actuel de Vénus après l'emballement de l'effet de serre. Selon eux, Vénus pourrait avoir initialement présenté de faibles réserves d'eau en surface, qui est étayée par des modèles de solidification d'océans magmatiques, ainsi que des modèles de formation planétaire démontrant des variations stochastiques dans les réserves d'eau initiales des planètes telluriques du système solaire, et aussi par le fait que Vénus se serait vraisemblablement formée dans une région du disque protoplanétaire plus chaude et plus pauvre en composés volatiles que la Terre. Alors dans ce régime aride initial, le manque de précipitations aurait limité l'altération des silicates et la réduction du CO2. En l'absence d'un mécanisme de régulation de l'altération des silicates pour compenser le dégazage, le CO2 aurait ainsi pu s'accumuler dans l'atmosphère, réchauffant la surface jusqu'à la disparition complète de l'eau, ce qui expliquerait son état actuel. Vénus aurait donc fini par perdre son eau et donc toute forme de vie, même simple, aurait disparu. Donc même une planète comme Vénus, qui est située dans la zone habitable de son étoile, peut devenir inhabitable si elle est un peu aride, en raison d'un déséquilibre du cycle du carbone. Ces travaux montrent que la définition simpliste de la zone habitable n'est qu'un point de départ. L'habitabilité dépend de bien plus que la simple proximité d'une étoile. Or, pour l'instant, c'est tout ce que nous pouvons mesurer, hein. Selon les chercheurs, même si de nombreuses planètes pourraient être habitables pendant de courtes périodes, et même permettre l'apparition d'une vie simple, pour ce qui est d'une habitabilité à long terme, indispensable à l'émergence d'une vie complexe et d'espèces bâtisseuses de civilisations comme la nôtre, leur nombre pourrait être bien plus faible. Et plus généralement, les exoplanètes telluriques arides sont moins susceptibles de rester habitables sur de longues périodes et peuvent donc être de mauvaises candidates pour la recherche de biosignatures. L'article de Haskell White, Janela et Joshua Christensen-Totten est paru dans The Planetary Science Journal, le volume 7, daté du 15 avril 2026. Il porte le titre « Les déséquilibres du cycle du carbone sur les planètes telluriques arides et leurs implications pour Vénus ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut !